Le journal de Raphaël Chalvera.
Bonjour, le bâtiment des Ursulines à Porrentruy a trouvé preneur. Il est racheté par la société immobilière jurassienne IMJU, un soulagement pour le conseil de fondation. Le canton du Jura vise un parc de véhicules plus vert pour l'État. Il va se doter d'une stratégie avec l'ambition de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Le gouvernement répond en ce sens à une question écrite de la députée écologiste Céline Robert-Charrue-Linder. Clap de fin abrupte et sans gloire pour l'équipe de Suisse de hockey sur glace. Elle a été sortie par l'Allemagne hier dès les quarts de finale du Mondial. L'avenir du sélectionneur Patrick Fischer est désormais en question. Météo, le week-end de Pentecôte s'annonce bien ensoleillé. De rares averses ou orages sont toutefois possibles dimanche et lundi. Il fera demain jusqu'à 23 degrés en plaine et 20 sur les hauteurs. Le bâtiment des Sœurs de Sainte-Ursule à Porrentruy a trouvé un acheteur. Il a été vendu à la société immobilière jurassienne IMJU, nous confie le conseil de fondation. Vide depuis près d'un an et la fermeture de l'école des Ursulines, le bâtiment, bien qu'historique, était difficile à vendre en raison de sa vétusté. Le conseil de fondation l'avait estimé à 1,7 million de francs. Le prix de vente reste confidentiel, mais Henri-Joseph Teubet, président du conseil de fondation, refuse pour autant de dire qu'il a été bradé.
Alors le bradé n'est pas le mot juste. Alors c'est un soulagement, oui, parce que c'est un grand paquebot qui nécessite plusieurs millions d'investissements pour le rénover. C'est un bâtiment protégé. Donc la vente s'est faite de manière à permettre à la société qui a acheté ce bâtiment de disposer des fonds pour rénover plutôt que payer le fonds. Alors le prix qui a été convenu permet à la Fondation de respecter l'ensemble de ses engagements. On va même également assumer les engagements de l'école qui était une institution autonome. Donc personne ne perd d'argent dans l'opération Sainte-Ursule. Le promoteur, c'est une famille jurassienne, la famille Chèvre du groupe IMJU, qui va nouer le dialogue avec la Croix-Rouge, avec la commune, mais qui restera maître d'œuvre des destinées de ce bâtiment. Je dirais qu'on a réussi à faire en sorte que l'on n'ait pas un promoteur agressif qui vienne à Porrentruy, qui commence un chantier puis qui le laisse en plan pendant des années.
Et en fonction des discussions, la Croix-Rouge pourrait rester dans le bâtiment. Les travaux dans le centre ancien de Porrentruy titillent les conseillers de ville. Lors des questions orales hier soir, à l'élu du centre, Virginie Vico-Cerf, s'est demandé pourquoi la réfection de la rue Pierre-Péquignat ne s'étendait pas le long de la rue du 23 juin pour rejoindre la tranchée déjà ouverte pour la place des Benlas. Une trentaine de mètres séparent ces deux chantiers qui laissent apparaître des conduites vétustes. Conseillère municipale en charge de l'équipement, Chantal Gerber, a donné deux raisons.
La première, c'est que ce n'est pas inscrit à notre planification financière. La deuxième raison, c'est que, si vous voulez, quand on part sur un projet d'assainissement d'une rue dans le cadre du plan directeur cœur de ville, il faut faire intervenir un comité de pilotage, il faut rassembler autour de la table différents acteurs, dont l'Office de la culture. Nous sommes quand même dans du patrimoine ancien. Nous devons nous mettre tous autour de la table pour savoir qu'est-ce que nous mettons comme pavé, est-ce que nous allons amener une plus-value végétalisée dans ces rues, oui ou non? Nous devons ensuite valider ces avant-projets. Et là, les services ont fait les calculs suivants. Sur cette rue-là, il nous faut encore 9 mois pour lancer l'étude. Elle est en cours de route. Ensuite, il faut pouvoir faire valider les crédits avant de pouvoir lancer effectivement des travaux dans la rue. Donc, ce n'est pas le cas pour les semaines qui viennent.
Le canton du Jura compte élaborer une stratégie pour réduire les émissions de CO2 du parc de véhicules de l'État. Le gouvernement jurassien a donné cette information dans le cadre d'une réponse à une question écrite de Céline Robert-Charrue-Linder. La députée des Verts souhaite savoir comment l'État jurassien comptait accélérer la décarbonisation des véhicules utilisés par les différents services de l'administration. François Comte détaille la réponse de l'exécutif cantonal.
Le gouvernement indique tout d'abord que le canton du Jura entend bel et bien se doter d'une stratégie pour la gestion du parc de véhicules. Le service des infrastructures a été mandaté en ce sens par le département de l'environnement. Le document est en cours d'élaboration. Il vise à définir une ligne à court et moyen terme pour le remplacement des véhicules en fin de vie dans le but de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Le gouvernement souligne que la stratégie se voudra réaliste au niveau financier et technique dans la mesure où chaque engin ne peut pas forcément faire l'objet d'un remplacement avec une émission neutre en carbone. La stratégie portera jusqu'en 2030 afin de pouvoir tenir compte de la rapide évolution des technologies. Pour le reste, l'exécutif cantonal précise que le remplacement d'un véhicule thermique par un engin avec une motorisation alternative est déjà actuellement évalué lors de chaque renouvellement. Il rappelle enfin que le plan de mobilité de l'administration cantonale entrera en vigueur le 1er juin. Le stationnement deviendra payant pour les employés de l'État qui pourront toutefois bénéficier d'un rabais sur les transports publics s'ils renoncent à leur voiture pour se rendre au travail.
La justice jurassienne a encore connu une importante surcharge de travail l'an dernier. Le constat ressort du rapport 2022 des autorités judiciaires publié aujourd'hui à l'attention du Parlement. Le tribunal cantonal a par exemple subi une hausse de 15% du nombre d'affaires introduites. Il ne parvient pas à absorber la charge de travail en constante augmentation, indique le rapport. Le président de l'instance pour 2022, Jean Crevoisier, estime que des mesures doivent être prises de manière impérative. La Confédération et les cantons progressent dans la lutte contre la violence domestique. Ils ont tiré ce matin un bilan intermédiaire positif, 2 ans après l'adoption de la feuille de route en la matière, et veulent y inclure la lutte contre la violence sexuelle. D'ici début 2025, les cantons veulent mettre en place un numéro de téléphone central ouvert 24 heures sur 24 aux victimes de violences pour des premiers conseils. Un guide a aussi été élaboré dans le but de protéger les enfants exposés à la violence domestique. Des projets pilotes vont par ailleurs naître dans le domaine de la surveillance électronique. La prescription d'héroïne est assouplie depuis le 1er avril. Le Conseil fédéral a pris cette décision après les expériences positives vécues durant la pandémie. L'objectif est de flexibiliser le suivi thérapeutique pour mieux s'adapter aux besoins des patients. À certaines conditions, les personnes dépendantes à l'héroïne peuvent recevoir leur traitement en dehors des centres ou le prendre à la maison. Les précisions de notre correspondante à Berne, Marie Vuemier.
La remise d'héroïne a été introduite dans les années 90 dans la foulée des scènes ouvertes de la drogue. Elle a toujours été plus strictement encadrée que les autres méthodes de substitution, mais elle a largement fait ses preuves, souligne le Conseil fédéral. La santé des personnes dépendantes et leur situation sociale se sont nettement améliorées. Aujourd'hui, la population concernée vieillit et est de moins en moins mobile. Au centre de traitement ambulatoire des addictions Suprax à Bienne, 65 personnes suivent un traitement à l'héroïne. La moyenne d'âge se situe entre 45 et 60 ans. La plupart des patients ont besoin de cette structure journalière qui les oblige à se rendre 2 fois par jour au centre. Mais cet assouplissement permettra de mieux personnaliser le suivi et d'offrir de nouvelles perspectives à certaines personnes. Nathalie Reist, directrice du site Suprax à Bienne.
Nos patients viennent 365 jours par année. Certains viennent 2 fois par jour. Certains viennent pas tous de la même ville, prennent le train, ont des trajets d'une heure par jour peut-être même. Puis c'est clair que ça peut aussi leur faciliter d'avoir une vie à côté et pas d'être toujours dépendant à nos horaires. Nous avons des personnes qui sont aussi dans des homes, qui ont aussi des soins à domicile. Certaines personnes travaillent, donc ils ont déjà leur structure journalière bien organisée, leur réseau social assez organisé, peuvent très bien se débrouiller.
Les conditions pour assouplir la remise d'héroïne restent très strictes et encadrées par un médecin. Aujourd'hui, environ 1700 personnes bénéficient de ce traitement en Suisse, ce qui représente 8% des patients dépendants aux opioïdes.
En Ukraine, au moins une personne a été tuée et 15 autres blessés, dont 2 enfants. Ce matin, une frappe russe a touché une clinique à Dnipro, grande ville du centre-est du pays. La Russie a intensifié ses attaques aériennes en Ukraine depuis début mai, souvent de nuit.
Vous écoutez RFJ, les 12h24.
Sport. Un week-end de réjouissance pour les amateurs de football régional. L'épilogue de la Coupe jurassienne se joue dès ce soir. Les filles disputent leur finale à Halle, alors que les juniors et les seniors seront à l'honneur demain au Breleu. Le clou du spectacle se déroulera lundi à Halle. Les juniors et ouvriront les feux en matinée avant les finales actives. Le FC Porrentruy et le FC Diaspora s'affronteront dans la catégorie Rennes. C'est une première. Les deux équipes de deuxième ligue se disputeront un billet qualificatif pour la Coupe de Suisse. De quoi sans doute rendre la Coupe jurassienne encore plus attractive pour les clubs de la région, alors que le format changera l'année prochaine. Le responsable technique de la JF, Cyril Maillard.
Certainement, mais disons qu'on en saura un peu plus la saison prochaine, puisqu'on va démarrer le nouveau système de cette qualification Coupe Suisse avec des éliminations directes. Ça veut dire qu'à partir du mois d'août, on va retrouver des équipes qui vont jouer peut-être un peu leur, je ne vais pas dire le match de l'année, mais la possibilité de passer un tour et puis de se retrouver peut-être en finale pour jouer effectivement le ticket qui qualifierait automatiquement un club de la JF au tour principal de la Coupe Suisse. En l'occurrence, lundi, le match Porrentruy-Diaspora permettra à l'une des équipes de peut-être affronter un Bâle, un Young Boys au mois d'août. Donc c'est vrai, effectivement un objectif peut-être, spécialement pour les équipes de deuxième ligue, d'obtenir ce sésame. Mais on peut aussi espérer qu'un club de troisième ligue puisse gravir les échelons et pourquoi pas, une fois, pouvoir utiliser ce biais-là pour se qualifier directement en Coupe Suisse.
Et nous reviendrons sur ce nouveau format de la Coupe jurassienne de football dans le journal de 18h. Le rideau tombe ce soir sur la saison des équipes de Première Ligue dans la région. Le FC Basse-Cour accueille le relégué d'Ornard à 20h15 pour la dernière ronde du championnat. Les footballeurs des Grands Prés peuvent encore espérer accrocher la 6e place en fonction des autres résultats. C'est la dernière fois que le FCB évoluera sous les ordres de son entraîneur Loulou Zimouchi. Les SR de Lémont finissent eux avec un déplacement chez les moins de 21 ans de Thun à 20h30. Déjà promu en Promotion League, les joueurs d'Anthony Siroufo tenteront de conclure en beauté. La Suisse quitte le championnat du monde de hockey sur glace par la petite porte. Cités parmi les favoris et ne cachant pas leurs ambitions élevées, les joueurs de Patrick Fischer ont été éliminés en quart de finale par l'Allemagne 3-1 hier à Riga. C'est leur 4e sortie consécutive à ce stade de la compétition. Une défaite dure à digérer pour les Helvètes qui ont manqué ce premier rendez-vous à élimination directe après une phase préliminaire presque parfaite. Le défenseur Romain Leffel.
Une fois de plus, quoi qu'il faut montrer présent. Ben voilà, je veux dire, on rentre à la maison et ça fait mal à tout le monde. On n'était pas venu là pour ça. On se devait de montrer notre caractère et on n'a pas su se montrer à la hauteur de ce qu'on voulait être.
Qu'est-ce qui a manqué, hormis le caractère, cette équipe de Suisse pour bousculer cette équipe d'Allemagne?
Plus de buts, je pense qu'il faut leur donner du crédit aussi. Ils ont très bien joué défensivement, ils étaient très compacts devant leur but et ils ont donné peu de chance à nos tirs d'atteindre le goal. Et voilà, mais je pense qu'à ce niveau, tu dois être capable de trouver des lignes et... Mais voilà, des petites erreurs qui nous coûtent le match aussi, donc frustrant.
Cette nouvelle élimination prématurée dans un grand tournoi a de quoi fragiliser la position du sélectionneur Patrick Fischer. Sous la houlette du Zougois en poste depuis fin 2018, la Suisse n'a passé qu'une fois le stade des quarts de finale avec une médaille d'argent au Mondial en 2018. Trop tôt toutefois pour spéculer, selon le directeur des équipes nationales, Lars Weibel.
Tout le monde, moi et Patrick Fischer, sont toujours honnêtes. On a fait la même chose après Pékin. On a fait l'année passée la même chose. On va trouver la chose importante pour améliorer. Et Patrick Fischer est toujours très honnête. Cette analyse, moi je suis sûr qu'elle sera intéressante et très honnête. Mais comme j'ai dit, c'est trop tôt maintenant pour spéculer quelque chose. Moi, je peux dire seulement qu'il fait un job super. Il a mis le Swiss Hockey où nous sommes maintenant, mais tous les deux et tout le monde ici dans la fédération veut trouver la chose juste pour gagner le match important.
Des propos recueillis par notre envoyé spécial au championnat du monde, Christophe Morellon. Les demi-finales du tournoi opposeront les États-Unis à l'Allemagne et le Canada à la Lettonie. Ce sera demain à Tampere en Finlande. Très belle journée.